les mots des religions. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour, les mots du protestantisme, aujourd'hui, vous propose un échange, une discussion autour des grands réformateurs. Alors, Claudette Marquet est là, aujourd'hui, devant les micros de Canal Académie. Claudette Marquet est pasteur de l'Église réformée de France. Elle a dirigé pendant 14 ans le service télévision de la Fédération protestante de France, c'est-à-dire les émissions religieuses que vous pouvez voir sur France 2 le dimanche matin entre 10h et 10h30. Claudette Marquet, bonjour.
Bonjour.
Alors, qui sont ces grands réformateurs et quels sont les tout premiers réformateurs?
Je ne sais pas si vous êtes allé à Genève, qui est la capitale du calvinisme. En Europe, il y a dans les jardins des bastions, c'est déjà tout un programme, un mur. Et sur ce mur sont sculptés, vous savez, un petit peu comme aux États-Unis, les présidents des États-Unis, là, dans les rochers, sont sculptés des grandes figures austères, sombres, terribles d'ailleurs. Et vous avez en effet ce qu'on appelle les grands réformateurs, vous trouvez là. Pas Luther, justement, très intéressant. Le pauvre, il n'a qu'une stèle, on attend d'avoir l'argent pour construire sa statue. Il
étonnant,
a son nom.
Étonnant.
Ah, étonnant, étonnant, oui. Mais nous avons Calvin, nous avons John Knox, nous avons Farel et Théodore de Bèze, voilà. Mais on va dire un mot sur
un monde masculin, Claudette
voilà.
Marquet.
Alors, on les appelle les grands réformateurs parce que, en effet, le protestantisme est ainsi fait qu'à chaque occasion, au fond, on peut créer un nouveau courant du protestantisme. Donc, des petits réformateurs, il y en a tout au long des siècles et encore de nos jours, probablement. Mais ce qu'on appelle les grands réformateurs, c'est effectivement, on pourrait presque dire, les patriarches de la réforme. Donc, c'est ceux qui ont initié le courant au XVIe siècle.
Alors, deux noms intéressants, Jean Hus et John Wycliffe, qui ont inspiré la réforme de Luther.
Oui, tout à fait, parce que ce sont... Je crois qu'il ne faut pas imaginer, au fond, que Luther a eu ses idées comme ça, en priant dans sa cellule. Bien sûr que ce dont il a été porteur, il l'a reçu de ceux qui l'ont précédé dans la foi. Il ne faut pas croire qu'il y avait une espèce de catholicisme figé, ridicule et puéril, et qu'enfin Luther vint et que tout devient intelligent et beau. Non, non, bien sûr que le christianisme a produit des êtres éminents, remarquables, bien sûr. Mais on ne peut pas tous les citer, mais je crois en effet que John Wycliffe était un professeur de philosophie à Oxford, un éminent penseur, et qui lui aussi a bien réfléchi à toutes ces questions de renouveau de l'Église. Lui aussi a insisté sur la primauté de l'écriture. Parce qu'au fond, à l'époque déjà, on disait bien sûr, la Bible c'est bien, mais c'est compliqué à comprendre. Qui va trancher le sens d'un texte compliqué? Eh bien, on disait, c'est le pape, celui qui interprète droitement la Bible. Et John Wycliffe disait, c'est vrai que c'est pas toujours facile à comprendre, mais tout être, lisant, priant, peut comprendre ce que dit le texte biblique. Et c'est en effet une idée que Luther a reprise. Lui-même aussi a insisté sur les sacrements. Je ne sais pas si on va revenir là-dessus, c'est un peu compliqué. L'Eucharistie, quand on mange le pain et le vin, disaient les catholiques, nous mangeons réellement le corps et nous buvons réellement le sang du Christ, non pas par l'effet du Saint-Esprit, c'est vrai, mais par la médiation du prêtre. Donc là, on a réellement non plus des réalités matérielles, mais on a des réalités divines, puisque c'est le corps du Christ. Et déjà, Wycliffe disait, non, il y a bien une présence réelle, bien sûr, dans ces espèces, mais on n'est pas anthropophage, on n'est pas en train de manger le corps du Christ. Il insistait aussi sur le rôle, au fond, du peuple. Eh bien, tout ça... Toutes ces idées, elles ont cheminé jusque vers un moine, lui aussi, un religieux du nom de Jean Hus, qui lui vivait à Prague, en Bohême. Eh bien, il a repris lui aussi toutes ces idées et sa ville, sa région l'a accepté. Il y a une espèce de réforme hussite en Bohême, donc au XVe siècle, à la fin du XIIIe, du XIVe, début du XVe siècle. Jean Hus aussi a redit, au fond, les mêmes choses que Wycliffe, un peu autrement, la Bible, la grâce, la foi, l'Église invisible, les sacrements qui nous sont donnés, non pas comme une réalité, comment dire, étrangère à nous, enfin, ou presque magique, mais comme une réalité profondément spirituelle. Et d'ailleurs, Luther disait « nous sommes tous des hussites ». Et en effet, Luther a repris aussi à nouveau frais toutes ses idées.
Mais ce que vous disiez, ce que vous m'expliquiez, Claudette Marquet, c'est que Luther a revisité ces éléments réformateurs, transmis par Hus, par Wycliffe, etc. Il a transmis dans sa chair, dans son âme, dans son cœur chrétien.
Absolument. Je crois que pour lui, c'était vraiment une question de vie ou de mort. Peut-être parce qu'il était moine, mais aussi parce que c'était un être profondément religieux, profondément spirituel, et je crois profondément désireux d'être un bon chrétien. C'est ce qu'il disait, moi je veux être un bon chrétien, mais je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais plus comment m'y prendre. Et donc, on peut dire que pour Luther, effectivement, ses idées sont devenues des réalités profondes, personnelles, existentielles, et c'est ce qui fait la caractéristique, je crois, de ce grand réformateur. C'est que pour lui, c'était vraiment une affaire personnel. Et d'ailleurs, on a parlé de l'individualisme luthérien, je crois, à juste titre, parce que Luther disait, il ne parlait pas comme ça, hein, mais ça m'est égal de savoir si les gens sont sauvés. Mais moi, Martin Luther, est-ce que moi, je trouverai grâce aux yeux de Dieu? Donc c'est une question personnelle. Et il a trouvé effectivement que Dieu était un Dieu d'amour et pas un Dieu comptable.
Un Dieu comptable, et cela nous fait faire une référence par rapport au trafic des indulgences contre lesquelles Luther a vivement résisté.
Oui, ça a été la cause immédiate, je dirais, de la réforme. Ça n'était pas le seul élément, hein, on l'a vu. Mais bien sûr, vous savez, quelque chose de choquant, puisqu'il fallait à la fois... Parce que les évêques étaient aussi des responsables politiques. Ils géraient un évêché, mais comme on gère un département ou une région. Ils avaient besoin d'argent. À Rome, on voulait construire ce qui est devenu la basilique Saint-Pierre. Ça coûtait de l'argent. Et donc, certains ont dit, tiens, on va vendre des jours de purgatoire en moins, hein, aux fidèles, et comme ça, on va ramasser de l'argent. Et donc, la cause immédiate, c'est un moine, et dominicain d'ailleurs, Tetzel, qui se promenait en Allemagne avec une petite clochette et qui disait, chaque fois que dans le tronc tombe une pièce, c'est une âme qui s'envole du purgatoire. Alors, il a protesté parce que ça se faisait aussi à l'époque. À l'époque, on faisait des débats théologiques. On affichait des thèses qu'on défendait. Et Luther, le 31 octobre 1517, a affiché sur la porte de l'église de Wittenberg en Allemagne 95 thèses à discuter, donc, contre les indulgences. Ça a fait un tabac, pardon pour l'expression un peu triviale. Ça a vraiment allumé un feu, on peut dire, intellectuel. On a beaucoup débattu de ces thèses. Et on peut dire que c'est la cause immédiate, en effet, de la réforme.
Et Luther est excommunié.
Alors, Luther excommunié 3 ans plus tard, quand même. Hein, ça a pris le temps, puisqu'au début, on l'a simplement traité, j'allais dire normalement, qu'il se repente, qu'il reconnaisse ses erreurs, on l'aurait pardonné. Et d'ailleurs, je dois dire que, à la différence de l'orthodoxie, les protestants, aux yeux du catholicisme, ne sont pas schismatiques. Schismatique, ça veut dire qu'on se sépare. On est d'accord à peu près sur tout, mais on se sépare. Est-ce que les protestants sont des hérétiques, c'est-à-dire qu'ils véhiculent des idées fausses? Et donc, Luther a été condamné, en effet, comme hérétique.
Alors, Luther fait école auprès de Zwingli?
Oui, absolument. Alors là, on va en Suisse alémanique. Pardon, je reviens juste un instant, si vous permettez, sur Luther, parce que je voudrais dire aussi que Luther, on a parlé de ses idées, mais il y a une œuvre dont on doit le créditer, qui est très importante. Il a assuré toute la traduction de la Bible en allemand, donc l'Ancien et le Nouveau Testament, qui est à l'origine de l'allemand moderne. Donc, ce n'était pas seulement des réformateurs, j'allais dire, religieux. Il a aussi apporté un renouveau de la langue allemande, l'allemand moderne. J'ajoute que c'était un musicien accompli et qu'il a composé un certain nombre d'hymnes que d'ailleurs Bach a repris plus tard, qu'on appelle des chorales. Donc, il a composé beaucoup de musique, car il voulait, en effet, que le peuple participe à la célébration de la messe, disons, du culte, par les chants, et c'est ainsi qu'il a joué un rôle important, même dans la musique. Voilà.
Nous sentons alors votre affection très vive moine Luther.
Oui, bien sûr, il n'était pas parfait, je crois qu'il le reconnaissait lui-même, mais c'est quand même un être exceptionnel. Alors, en effet, ses idées ont gagné à peu près toute l'Europe intellectuelle. Elle est allée jusqu'à Zurich, en Suisse, où se trouvait un moine, un prêtre plutôt, dénommé Ulrich Zwingli, donc un Suisse-Allemand. Alors, c'est un homme beaucoup plus rationnel, on ne peut pas dire cartésien, mais plus, moins mystique. Alors, pas du tout mystique, Zwingli, lui, il veut que l'on raisonne, que le peuple soit instruit, qu'il lise la Bible, qu'il la décortique, qu'il la comprenne. Les sacrements, ce sont des moyens utiles, mais plutôt symboliques, hein, le baptême ou l'Eucharistie, la Sainte Cène, mais il ne faut pas y voir là des effets magiques. Le pape a vraiment été infidèle à sa fonction, donc non, c'est l'autorité de la Bible qui prime. Alors, il a un côté sympathique, si je puis dire, ce Zwingli, en plus de son intelligence, c'est qu'il était aumônier aux armées, hein, et il a été aumônier des Suisses à la bataille de Marignan, car vous savez que les Suisses étaient des mercenaires, ils se vendaient à l'un ou à l'autre. Donc il était aumônier à Marignan, 1515, comme tous les écoliers savent, ou devraient savoir. Et le pauvre, alors lui, il est mort non pas comme Luther dans son lit ou comme Calvin, mais lui, il est mort à la guerre, une guerre de religion en Suisse, puisque en Suisse, on s'est battu, hélas aussi, entre catholiques et protestants.
Eh bien, Claudette Marquet, c'est sur l'évocation de ce grand réformateur Ulrich Zwingli que nous allons arrêter cette émission. Et je propose aux auditeurs de Canal Académie de nous retrouver très prochainement pour l'évocation d'autres grands réformateurs tels que Guillaume Farel, Jean Covin dit Calvin ou encore Théodore de Bèze. Merci Claudette Marquet, à bientôt.
Merci.